Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 3, suite 4. En attendant, et comme s'il eût eu affaire à un homme du monde, Monsieur de Charlus continuait à exercer ses colères, vraies ou feintes, mais devenues inutiles. Elles ne l'étaient pas toujours, cependant. Ainsi, un jour, qui se place d'ailleurs après cette première période, où le baron revenait avec Charlie et moi d'un déjeuner chez les Verdurin, croyant passer la fin de l'après-midi et la soirée avec le violoniste à Doncières, l'adieu de celui-ci, dès au sortir du train, qui répondit « Non, j'ai affaire !» causa à M. de Charlus une déception si forte que, bien qu'il eût essayé de faire contre mauvaise fortune bon cœur, je vis des larmes faire fondre le phare de ses cils, tandis qu'il restait hébété devant le train. Cette douleur fut telle que, comme nous comptions, elle et moi, finir la journée à Doncières, je dis à Albertine, à l'oreille, que je voudrais bien que nous ne laissions pas seul M. de Charlus, qui me semblait, je ne savais pourquoi, chagriné. La chère petite accepta de grand cœur. Je demandai alors à M. de Charlus s'il ne voulait pas que je l'accompagnasse un peu. Lui aussi accepta, mais refusa de déranger pour cela ma cousine. Je trouvai une certaine douceur, et sans doute pour une dernière fois, puisque j'étais résolue de rompre avec elle, à lui ordonner doucement, comme si elle avait été ma femme, « Rentre de ton côté, je te retrouverai ce soir. » Et à l'entendre, comme une épouse aurait fait, me donner la permission de faire comme je voudrais, et m'approuver, si M. de Charlus, qu'elle aimait bien, avait besoin de moi, de me mettre à sa disposition. Nous allâmes, le baron et moi, lui dandinant son gros corps, ses yeux de jésuite baissés, moi le suivant, jusqu'à un café où on nous apporta de la bière. Je sentis les yeux de Monsieur de Charlus attachés par l'inquiétude à quelque projet. Tout à coup, il demanda du papier et de l'encre, et se mit à écrire avec une vitesse singulière. Pendant qu'il couvrait feuille après feuille, ses yeux étincelaient d'une rêverie rageuse. Quand il eut écrit 8 pages, « Puis-je vous demander un grand service ?» me dit-il. « Excusez-moi de fermer ce mot, mais il le faut. Vous allez prendre une voiture, une auto si vous pouvez, pour aller plus vite. Vous trouverez certainement encore Morel dans sa chambre, où il est allé se changer. Pauvre garçon, il a voulu faire le fendant au moment de nous quitter, mais soyez sûr qu'il a le cœur plus gros que moi. Vous allez lui donner ce mot. Et s'il vous demande où vous m'avez vu, vous lui direz que vous vous étiez arrêté à Doncières. Ce qui est du reste la vérité, pour voir Robert, ce qui ne l'est peut-être pas, mais que vous m'avez rencontré avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que j'avais l'air très en colère, que vous avez cru surprendre les mots d'envoi de témoin. Je me bats demain, en effet. Surtout, ne lui dites pas que je le demande, ne cherchez pas à le ramener. Mais s'il veut venir avec vous, ne l'empêchez pas de le faire. « Allez, mon enfant, c'est pour son bien. Vous pouvez éviter un gros drame. Pendant que vous serez parti, je vais écrire à mes témoins. Je vous ai empêché de vous promener avec votre cousine. J'espère qu'elle ne m'en aura pas voulu, et même je le crois. Car c'est une âme noble, et je sais qu'elle est de celles qui savent ne pas refuser la grandeur des circonstances. Il faudra que vous la remerciez pour moi. Je lui suis personnellement redevable. » Et il me plaît que ce soit ainsi. J'avais grand pitié de M. de Charlus. Il me semblait que Charlie aurait pu empêcher ce duel, dont il était peut-être la cause, et j'étais révoltée, si cela était ainsi, qu'il fût parti avec cette indifférence au lieu d'assister son protecteur. Mon indignation fut plus grande quand, en arrivant à la maison où logeait Morel, je reconnus la voix du violoniste, lequel, par le besoin qu'il avait d'épandre de la gaieté, chantait de tout cœur. Le samedi soir après le turbat. Si le pauvre monsieur de Charlus l'avait entendu, lui qui voulait qu'on crût, et croyait sans doute, que Morel avait en ce moment le cœur gros. Charlie se mit à danser de plaisir en m'apercevant. « Oh, mon vieux, pardonnez-moi de vous appeler ainsi, avec cette sacrée vie militaire, on prend de sales habitudes. Quelle veine de vous voir, je n'ai rien à faire de ma soirée, je vous en prie, passons-la ensemble, on restera ici si ça vous plaît, on ira en canot si vous aimez mieux, on fera de la musique, je n'ai aucune préférence. » Je lui dis que j'étais obligée de dîner à Balbec. Il avait bonne envie que je l'y invitasse, mais je ne le voulais pas. « Mais si vous êtes si pressé, pourquoi êtes-vous venu ?»« Je vous apporte un mot de M. de Charlus. » À ce moment, toute sa gaieté disparut. Sa figure se contracta. « Comment ? Il faut qu'il vienne me relancer jusqu'ici. Alors, je suis un esclave. »« Mon vieux, soyez gentil, je n'ouvre pas la lettre. Vous lui direz que vous ne m'avez pas trouvé. »« Ne feriez-vous pas mieux d'ouvrir ? Je me figure qu'il y a quelque chose de grave. » « 100 fois non. Vous ne connaissez pas les mensonges, les ruses infernales de ce vieux Forban. C'est un truc pour que j'aille le voir. Eh bien, je n'irai pas. Je veux la paix ce soir. »« Mais est-ce qu'il n'y a pas un duel demain ?» demandai-je à Morel, que je supposais aussi au courant. « Un duel ? » me dit-il d'un air stupéfait. « Je ne sais pas un mot de ça. Après tout, je m'en fous. Ce vieux dégoûtant peut bien se faire zigouiller si ça lui plaît. Mais tenez, vous m'intriguez, je vais tout de même voir sa lettre. Vous lui direz que vous l'avez laissée à tout hasard, pour le cas où je rentrerai. » Tandis que Morel me parlait, je regardais avec stupéfaction les admirables livres que lui avait donnés M. de Charlus et qui encombraient la chambre. Le violoniste ayant refusé ce qui portait « Je suis au baron », etc., devise qui lui semblait insultante pour lui-même comme un signe d'appartenance, le baron, avec l'ingéniosité sentimentale où se complaît l'amour malheureux, en avait varié d'autres, provenant d'ancêtres, mais commandés aux relieurs selon les circonstances d'une mélancolique amitié. Quelquefois elles étaient brèves et confiantes, comme « spes mea » ou comme « expectata non eludet ». Quelquefois seulement résignées, comme « j'attendrai ». Certaines galantes, même plaisir du maître. Ou conseillant la chasteté, comme celle empruntée aux simianes, semée de tours d'azur et de fleurs de lys, et détournée de son sens. Sustentant lilia turres. D'autres enfin désespérés, et donnant rendez-vous au ciel à celui qui n'avait pas voulu de lui sur la terre. Manette ultima coelo. Et trouvant trop verte la grappe qu'il ne pouvait atteindre, feignant de n'avoir pas recherché ce qu'il n'avait pas obtenu, M. de Charlus disait dans l'une « Non mortale quod opto ». Mais je n'eus pas le temps de les voir toutes. Si M. de Charlus, en jetant sur le papier cette lettre, avait paru en proie au démon de l'inspiration qui faisait courir sa plume, dès que Morel eut ouvert le cachet, Atavis et Armis, chargé d'un léopard accompagné de 2 roses de gueule, il se mit à lire avec une fièvre aussi grande qu'avait eu M. de Charlus en écrivant. Et sur ses pages, noircies à la diable, ses regards ne couraient pas moins vite que la plume du baron. « Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-il. « Il ne manquait plus que cela. Mais où le trouver ? Dieu sait où il est maintenant. » J'insinuai qu'en se pressant, on le trouverait peut-être, encore, à une brasserie où il avait demandé de la bière pour se remettre. « Je ne sais pas si je reviendrai, » dit-il à sa femme de ménage, et il ajouta in petto, « Cela dépendra de la tournure que prendront les choses. » Quelques minutes après, nous arrivions au café. Je remarquai l'air de M. de Charlus au moment où il m'aperçut. En voyant que je ne revenais pas seul, je sentis que la respiration, que la vie lui était rendue. Étant d'humeur ce soir-là à ne pouvoir se passer de Morel, il avait inventé qu'on lui avait rapporté que 2 officiers du régiment avaient mal parlé de lui à propos du violoniste et qu'il allait leur envoyer des témoins. Morel avait vu le scandale, sa vie au régiment impossible. Il était accouru. En quoi il n'avait pas absolument eu tort. Car pour rendre son mensonge plus vraisemblable, M. de Charlus avait déjà écrit à deux amis. L'un était Cottard, pour leur demander d'être ses témoins. Et si le violoniste n'était pas venu, il est certain que, fou comme était M. de Charlus, et pour changer sa tristesse en fureur, il les eût envoyés au hasard à un officier quelconque, avec lequel ce lui eût été un soulagement de se battre. Pendant ce temps, M. de Charlus, se rappelant qu'il était de race plus pure que la maison de France, se disait qu'il était bien bon de se faire tant de mauvais sang pour le fils d'un maître d'hôtel, dont il n'eût pas daigné fréquenter le maître. D'autre part, s'il ne se plaisait plus guère que dans la fréquentation de la crapule, la profonde habitude qu'a celle-ci de ne pas répondre à une lettre, de manquer à un rendez-vous sans prévenir, sans s'excuser après, lui donnait, comme il s'agissait souvent d'amour, tant d'émotions, et le reste du temps lui causait tant d'agacement, de gêne et de rage, qu'il en arrivait parfois à regretter la multiplicité de lettres pour un rien, l'exactitude scrupuleuse des ambassadeurs et des princes, lesquels, s'il lui était malheureusement indifférent, lui donnait malgré tout une espèce de repos. Habitué aux façons de Morel, et sachant combien il avait peu de prise sur lui, et était incapable de s'insinuer dans une vie où des camaraderies vulgaires, mais consacrées par l'habitude, prenaient trop de place et de temps pour qu'on gardât une heure au grand seigneur évincé, orgueilleux et vainement implorant, M. de Charlus était tellement persuadé que le musicien ne viendrait pas, il avait tellement peur de s'être à jamais brouillé avec lui en allant trop loin, qu'il eut peine à retenir un cri en le voyant. Mais, se sentant vainqueur, il tint à dicter les conditions de la paix et à en tirer lui-même les avantages qu'il pouvait. « Que venez-vous faire ici ? » lui dit-il. « Et vous ? » ajouta-t-il en me regardant. « Je vous avais recommandé surtout de ne pas le ramener. »« Il ne voulait pas me ramener, » dit Morel, en roulant vers M. de Charlus, dans la naïveté de sa coquetterie, des regards conventionnellement tristes et langoureusement démodés, avec un air, jugé sans doute irrésistible, de vouloir embrasser le baron et d'avoir envie de pleurer. « C'est moi qui suis venu malgré lui. » Je viens au nom de notre amitié pour vous supplier à deux genoux de ne pas faire cette folie. » Monsieur de Charlus délirait de joie. La réaction était bien forte pour ses nerfs. Malgré cela, il en resta le maître. « L'amitié que vous invoquez assez inopportunément, répondit-il d'un ton sec, devrait au contraire me faire approuver de vous quand je ne crois pas devoir laisser passer les impertinences d'un sot. D'ailleurs, si je voulais obéir aux prières d'une affection que j'ai connue mieux inspirée, je n'en aurais plus le pouvoir. Mes lettres pour mes témoins sont parties, et je ne doute pas de leur acceptation. Vous avez toujours agi avec moi comme un petit imbécile, et au lieu de vous enorgueillir, comme vous en aviez le droit, de la prédilection que je vous avais marquée, au lieu de faire comprendre à la tourbe d'adjudants ou de domestiques au milieu desquels la loi militaire vous force de vivre, quel motif d'incomparable fierté était pour vous une amitié comme la mienne? Vous avez cherché à vous excuser, presque à vous faire un mérite stupide de ne pas être assez reconnaissant. Je sais qu'en cela, ajouta-t-il, pour ne pas laisser voir combien certaines scènes l'avaient humilié, vous n'êtes coupable que de vous être laissé mener par la jalousie des autres. Mais comment, à votre âge, êtes-vous assez enfant, et enfant assez mal élevé, pour n'avoir pas deviné tout de suite que votre élection par moi et tous les avantages qui devaient en résulter pour vous allaient exciter des jalousies, que tous vos camarades, pendant qu'ils vous excitaient à vous brouiller avec moi, allaient travailler à prendre votre place? Je n'ai pas cru devoir vous avertir des lettres que j'ai reçues à cet égard de tous ceux à qui vous vous fiez le plus. Je dédaigne autant les avances de ces larbins que leurs inopérantes moqueries. La seule personne dont je me soucie, c'est vous, parce que je vous aime bien. Mais l'affection a des bornes, et vous auriez dû vous en douter. si dur que le mot de « larbin » pût être aux oreilles de Morel, dont le père l'avait été. Mais justement parce que son père l'avait été, l'explication de toutes les mésaventures sociales par la jalousie, explication simpliste et absurde, mais inusable, et qui, dans une certaine classe, prend toujours d'une façon aussi infaillible que les vieux trucs auprès du public des théâtres ou la menace du péril clérical dans les assemblées, trouvait chez lui une créance presque aussi forte que chez Françoise ou les domestiques de madame de Guermantes, pour qui c'était la seule cause des malheurs de l'humanité. Il ne douta pas que ses camarades n'eussent essayé de lui chipper sa place, et ne fut que plus malheureux de ce duel calamiteux, et d'ailleurs imaginaire. « Oh, quel désespoir !» s'écria Charlie. « Je n'y survivrai pas. Mais ils ne doivent pas vous voir avant d'aller trouver cet officier ?»«
Je ne sais, je pense que si. J'ai fait dire à l'un d'eux que je resterai ici ce soir, et je lui donnerai mes instructions. »
J'espère, d'ici sa venue, vous faire entendre raison. Permettez-moi seulement de rester auprès de vous, lui demanda tendrement Morel. C'était tout ce que voulait monsieur de Charlus. Il ne céda pas du premier coup. Vous auriez tort d'appliquer ici le « qui aime bien châtie bien » du proverbe, car c'est vous que j'aimais bien, et j'entends châtier, même après notre brouille, ceux qui ont lâchement essayé de vous faire du tort. Jusqu'ici, à leurs insinuations questionneuses, osant me demander comment un homme comme moi pouvait frayer avec un gigolo de votre espèce et sorti de rien, je n'ai répondu que par la devise de mes cousins La Rochefoucauld. C'est mon plaisir. Je vous ai même marqué plusieurs fois que ce plaisir était susceptible de devenir mon plus grand plaisir, sans qu'il résultât de votre arbitraire élévation un abaissement pour moi. » Et dans un mouvement d'orgueil presque fou, il s'écria en levant les bras « Tantus ab uno splendor !»« Condescendre n'est pas descendre !» ajouta-t-il avec plus de calme, après ce délire de fierté et de joie. « J'espère au moins que mes deux adversaires, malgré leur rang inégal, sont d'un sang que je peux faire couler sans honte. J'ai pris à cet égard quelques renseignements discrets qui m'ont rassuré. Si vous gardiez pour moi quelque gratitude, vous devriez être fier, au contraire, de voir qu'à cause de vous, je reprends l'humeur belliqueuse de mes ancêtres, disant comme eux, au cas d'une issue fatale, maintenant que j'ai compris le petit drôle que vous êtes. Mort, mais vie. » Et M. de Charlus le disait sincèrement, non seulement par amour pour Morel, mais parce qu'un goût batailleur, qu'il croyait naïvement tenir de ses aïeux, lui donnait tant d'allégresse à la pensée de se battre que ce duel machiné d'abord seulement pour faire venir Morel, il eût éprouvé maintenant du regret à y renoncer. Il n'avait jamais eu d'affaire sans se croire aussitôt valeureux et identifié à l'illustre connétable de Guermantes. Alors que, pour tout autre, ce même acte d'aller sur le terrain lui paraissait de la dernière insignifiance. « Je crois que ce sera bien beau, » nous dit-il sincèrement en psalmodiant chaque terme. « Voir Sarah Bernard dans l'aiglon, qu'est-ce que c'est ? Du caca ! Mouner Sully dans Oedipe, caca ! Tout au plus prend-il une certaine pâleur de transfiguration quand cela se passe dans les arènes de Nîmes. Mais qu'est-ce que c'est à côté de cette chose inouïe, voir batailler le propre descendant du connétable ?» Et à cette seule pensée, M. de Charlus, ne se tenant pas de joie, se mit à faire des contres de cartes qui, rappelant Molière, nous firent rapprocher prudemment de nous nos bocs et craindre que les premiers croisements de fer blessassent les adversaires, le médecin et les témoins. « Quel spectacle tentant ce serait pour un peintre ! Vous qui connaissez M. Elstir, me dit-il, vous devriez l'amener !» Je répondis qu'il n'était pas sur la côte. M. de Charlus m'insinua qu'on pourrait lui télégraphier. « Oh, je dis cela pour lui !» ajouta-t-il devant mon silence. « C'est toujours intéressant pour un maître. »« À mon avis, il en est un.
de fixer un exemple de pareille reviviscence ethnique. Et il n'y en a peut-être pas un par siècle.
Mais si M. de Charlus s'enchantait à la pensée d'un combat qu'il avait cru d'abord tout fictif, Morel pensait avec terreur au potin qui, de la musique du régiment, pouvait être colporté, grâce au bruit que ferait ce duel, jusqu'au temple de la rue Bergère. Voyant déjà la classe informée de tout, il devenait de plus en plus pressant auprès de M. de Charlus, lequel continuait à gesticuler devant l'enivrante idée de se battre. Il supplia le baron de lui permettre de ne pas le quitter jusqu'au surlendemain, jour supposé du duel, pour le garder à vue et tâcher de lui faire entendre la voix de la raison. Une si tendre proposition triompha des dernières hésitations de M. de Charlus. Il dit qu'il allait essayer de trouver une échappatoire, qu'il ferait remettre au surlendemain une résolution définitive. De cette façon, en n'arrangeant pas l'affaire tout d'un coup, M. de Charlus savait garder Charlie au moins deux jours et en profiter pour obtenir de lui des engagements pour l'avenir en échange de sa renonciation au duel. Exercice, disait-il, qui par soi-même l'enchantait et dont il ne se priverait pas sans regret. Et en cela d'ailleurs, il était sincère, car il avait toujours pris plaisir à aller sur le terrain quand il s'agissait de croiser le fer ou d'échanger des balles avec un adversaire. Cotard arriva enfin, quoique mis très en retard, car, ravi de servir de témoin, mais plus ému encore, il avait été obligé de s'arrêter à tous les cafés ou fermes de la route en demandant qu'on voulût bien lui indiquer le numéro 100 ou le petit endroit. Aussitôt qu'il fut là, le baron l'emmena dans une pièce isolée, car il trouvait plus réglementaire que Charlie et moi n'assistions pas à l'entrevue. Et il excellait à donner à une chambre quelconque l'affectation provisoire de salle du trône ou des délibérations. Une fois seul avec Cottard, il le remercia chaleureusement, mais lui déclara qu'il semblait probable que le propos répété n'avait en réalité pas été tenu, et que, dans ces conditions, le docteur voulut bien avertir le second témoin que, sauf complications possibles, l'incident était considéré comme clos. Le danger s'éloignant, Cottard fut désappointé. Il voulut même un instant manifester de la colère, mais il se rappela qu'un de ses maîtres, qui avait fait la plus belle carrière médicale de son temps, ayant échoué la première fois à l'académie pour deux voix seulement, avait fait contre mauvaise fortune bon cœur et était allé serrer la main du concurrent élu. Aussi, le docteur se dispensa-t-il d'une expression de dépit qui n'eût plus rien changé, et après avoir murmuré, lui, le plus peureux des hommes, qu'il y a certaines choses qu'on ne peut laisser passer, il ajouta que c'était mieux ainsi, que cette solution le réjouissait. M. de Charlus, désireux de témoigner sa reconnaissance au docteur de la même façon que M. le duc, son frère, eût arrangé le col du paletot de mon père, comme une duchesse surtout eût tenu la taille à une plébéienne, approcha sa chaise tout près de celle du docteur, malgré le dégoût que celui-ci lui inspirait. Et non seulement sans plaisir physique, mais surmontant une répulsion physique, en guermante non en invertie, pour dire adieu au docteur, il lui prit la main et la lui caressa un moment avec une bonté de maître, flattant le museau de son cheval et lui donnant du sucre. Mais Cottard, qui n'avait jamais laissé voir au baron, qui lui-même entendu courir de vagues mauvais bruits sur ses mœurs, et ne l'en considérait pas moins dans son fort intérieur comme faisant partie de la classe des anormaux, même avec son habituelle impropriété de termes et sur le ton le plus sérieux, il disait d'un valet de chambre de M. Verdurin « Est-ce que ce n'est pas la maîtresse du baron ?» Personnage dont il avait peu l'expérience, il se figura que cette caresse de la main était le prélude immédiat d'un viol, pour l'accomplissement duquel il avait été, le duel n'ayant servi que de prétexte, attiré dans un guet-apens et conduit par le baron dans ce salon solitaire où il allait être pris de force. n'osant quitter sa chaise, où la peur le tenait cloué, il roulait des yeux d'épouvante, comme tombé aux mains d'un sauvage dont il n'était pas bien assuré qu'il ne se nourrit pas de chair humaine. Enfin, M. de Charlus, lui lâchant la main et voulant être aimable jusqu'au bout, « Vous allez prendre quelque chose avec nous, comme on dit, ce qu'on appelait autrefois un mazagran ou un gloria, boisson qu'on ne trouve plus, comme curiosité archéologique, que dans les pièces de la biche et les cafés de Doncières. Un gloria serait assez convenable au lieu, n'est-ce pas? Et aux circonstances, qu'en dites-vous?
« Je suis président de la Ligue anti-alcoolique, » répondit Cottard.
« Il suffirait que quelque médicastre de province passât pour qu'on dise que je ne prêche pas d'exemple. « Oh, somini sublime dedit, coelum coetueri !»
ajouta-t-il, bien que cela n'eût aucun rapport, mais parce que son stock de citations latines était assez pauvre, suffisant d'ailleurs pour émerveiller ses élèves.
Monsieur de Charlus haussa les épaules et ramena Cottard auprès de nous, après lui avoir demandé un secret qui lui importait d'autant plus que le motif du duel avorté était purement imaginaire. Il fallait empêcher qu'il parvînt aux oreilles de l'officier arbitrairement mis en cause. Tandis que nous buvions tous quatre, Madame Cottard, qui attendait son mari dehors, devant la porte, et que Monsieur de Charlus avait très bien vu, mais qu'il ne se souciait pas d'attirer, entra et dit bonjour au baron, qui lui tendit la main comme à une chambrière, sans bouger de sa chaise, parti en roi qui reçoit des hommages, parti en snob qui ne veut pas qu'une femme peu élégante s'asseye à sa table, parti en égoïste qui a du plaisir à être seul avec ses amis et ne veut pas être embêté. Madame Cottard resta donc debout à parler à Monsieur de Charlus et à son mari. Mais peut-être parce que la politesse, ce qu'on a à faire, n'est pas le privilège exclusif des guermantes, et peut tout d'un coup illuminer et guider les cerveaux les plus incertains, ou parce que, trompant beaucoup sa femme, Cottard avait par moments, par une espèce de revanche, le besoin de la protéger contre qui lui manquait, brusquement le docteur fronça le sourcil, ce que je ne lui avais jamais vu faire, et sans consulter M. de Charlus, en maître, « Voyons, Léontine, ne reste donc pas debout, assieds-toi. »« Mais est-ce que je ne vous dérange pas ?» demanda timidement Madame Cottard à M. de Charlus, lequel, surpris du ton du docteur, n'avait rien répondu. Et sans lui en donner cette seconde fois le temps, Cottard reprit avec autorité. « Je t'ai dit de t'asseoir. » Au bout d'un instant, on se dispersa, et alors M. de Charlus dit à Morel. Je conclus de toute cette histoire, mieux terminée que vous ne méritiez, que vous ne savez pas vous conduire, et qu'à la fin de votre service militaire, je vous ramène moi-même à votre père, comme fit l'archange Raphaël envoyé par Dieu au jeune Tobie. Et le baron se mit à sourire, avec un air de grandeur et une joie que Morel, à qui la perspective d'être ainsi ramené ne plaisait guère, ne semblait pas partager. Dans l'ivresse de se comparer à l'archange et Morel au fils de Tobie, M. de Charlus ne pensait plus au but de sa phrase, qui était de tâter le terrain, pour savoir si, comme il le désirait, Morel consentirait à venir avec lui à Paris. Grisé par son amour, ou par son amour-propre, le baron ne vit pas, ou feignit de ne pas voir, la moue que fit le violoniste, car, ayant laissé celui-ci seul dans le café, il me dit avec un orgueilleux sourire « Avez-vous remarqué quand je l'ai comparé au fils de Tobie, comme il délirait de joie ? C'est parce que, comme il est très intelligent, il a tout de suite compris que le père auprès duquel il allait désormais vivre n'était pas son père selon la chair, qui doit être un affreux valet de chambre à moustache, mais son père spirituel, c'est-à-dire moi. » Quel orgueil pour lui! Comme il redressait fièrement la tête! Quelle joie il ressentait d'avoir compris! Je suis sûre qu'il va redire tous les jours « Oh Dieu, qui avait donné le bienheureux archange Raphaël pour guide à votre serviteur Tobie, dans un long voyage,
Accordez-nous à nous, vos serviteurs, d'être toujours protégés par lui et munis de son secours. »
« Je n'ai même pas eu besoin, » ajouta le baron, fort persuadé qu'il siégerait un jour devant le trône de Dieu, « de lui dire que j'étais l'envoyé céleste. Il l'a compris de lui-même et en était muet de bonheur. »
Et M. de Charlus, à qui au contraire le bonheur n'enlevait pas la parole, peu soucieux des quelques passants qui se retournèrent, croyant avoir affaire à un fou, s'écria tout seul et de toute sa force en levant les mains « Alléluia !» Cette réconciliation ne mit fin que pour un temps au tourment de M. de Charlus. Souvent Morel, parti en manœuvre trop loin pour que M. de Charlus pût aller le voir ou m'envoyer lui parler, écrivait au baron des lettres désespérées et tendres, où il lui assurait qu'il lui en fallait finir avec la vie, parce qu'il avait, pour une chose affreuse, besoin de 25 000 francs. Il ne disait pas quelle était la chose affreuse. L'eût-il dit qu'elle eût sans doute été inventée. Pour l'argent même, M. de Charlus l'eût envoyé volontiers, s'il n'eût senti que cela donnait à Charlie les moyens de se passer de lui, et aussi d'avoir les faveurs de quelque autre. Aussi refusait-il, et ses télégrammes avaient le ton sec et tranchant de sa voix. Quand il était certain de leur effet, il souhaitait que Morel fût à jamais brouillé avec lui, car persuadé que ce serait le contraire qui se réaliserait, il se rendait compte de tous les inconvénients qui allaient renaître de cette liaison inévitable. Mais si aucune réponse de Morel ne venait, il ne dormait plus, il n'avait plus un moment de calme, tant le nombre est grand, en effet, des choses que nous vivons sans les connaître et des réalités intérieures et profondes qui nous restent cachées. Il formait alors toutes les suppositions sur cette énormité qui faisait que Morel avait besoin de 25 000 francs. Il lui donnait toutes les formes, y attachait tour à tour bien des noms propres. Je crois que, dans ces moments-là, M. de Charlus, et bien qu'à cette époque son snobisme diminuant eût été déjà au moins rejoint, sinon dépassé, par la curiosité grandissante que le baron avait du peuple, devait se rappeler avec quelque nostalgie les gracieux tourbillons multicolores des réunions mondaines, où les femmes et les hommes les plus charmants ne le recherchaient que pour le plaisir désintéressé qu'il leur donnait, où personne n'eût songé à lui monter le coup, à inventer une chose affreuse pour laquelle on est prêt à se donner la mort si on ne reçoit pas tout de suite 25 000 francs. Je crois qu'alors, et peut-être parce qu'il était resté tout de même plus de Combray que moi, et avait tenté la fierté féodale sur l'orgueil allemand, il devait trouver qu'on n'est pas impunément l'amant de cœur d'un domestique, que le peuple n'est pas tout à fait le monde, qu'en somme, il ne faisait pas confiance au peuple, comme je la lui ai toujours faite. La station suivante du petit train, Menneville, me rappelle justement un incident relatif à Morel et à M. de Charlus. Avant d'en parler, je dois dire que l'arrêt à Menneville, quand on conduisait à Balbec, un arrivant élégant qui, pour ne pas gêner, préférait ne pas habiter la Raspelière, était l'occasion de scènes moins pénibles que celles que je vais raconter dans un instant. L'arrivant, ayant ses menus bagages dans le train, trouvait généralement le grand hôtel un peu éloigné. Mais, comme il n'y avait avant Balbec que de petites plages aux villas inconfortables, était, par goût de luxe et de bien-être, résigné au long trajet. Quand, au moment où le train stationnait à Menneville, il voyait brusquement se dresser le palace dont il ne pouvait pas se douter que c'était une maison de prostitution. « Mais n'allons pas plus loin !» disait-il infailliblement à Madame Cottard, femme connue comme étant d'esprit pratique et de bon conseil. « Voilà tout à fait ce qu'il me faut. À quoi bon continuer jusqu'à Balbec, où ce ne sera certainement pas mieux? Rien qu'à l'aspect, je juge qu'il y a tout le confort. Je pourrais parfaitement faire venir là Madame Verdurin, car je compte, en échange de ses politesses, donner quelques petites réunions en son honneur. Elle n'aura pas tant de chemin à faire que si j'habite Balbec. Cela me semble tout à fait bien pour elle. et pour votre femme, mon cher professeur. Il doit y avoir des salons, nous y ferons venir ces dames. Entre nous, je ne comprends pas pourquoi, au lieu de louer la Raspelière, Madame Verdurin n'est pas venue habiter ici. C'est beaucoup plus sain que de vieilles maisons comme la Raspelière, qui est forcément humide, sans être propre d'ailleurs. Ils n'ont pas l'eau chaude, on ne peut pas se laver comme on veut. Mais Neuville me paraît bien plus agréable. Madame Verdurin y eût joué parfaitement son rôle de patronne. En tout cas, chacun ses goûts. Moi, je vais me fixer ici. Madame Cottard, ne voulez-vous pas descendre avec moi? En nous dépêchant, car le train ne va pas tarder à repartir. Vous me piloteriez dans cette maison, qui sera la vôtre et que vous devez avoir fréquentée souvent. C'est tout à fait un cadre fait pour vous. On avait toutes les peines du monde à faire taire et surtout à empêcher de descendre l'infortuné arrivant, lequel, avec l'obstination qui émane souvent des gaffes, insistait, prenait ses valises et ne voulait rien entendre jusqu'à ce qu'on lui eût assuré que jamais Madame Verdurin ni Madame Cottard ne viendraient le voir là. « En tout cas, je vais y élire domicile. Madame Verdurin n'aura qu'à m'y écrire. » Le souvenir relatif à Morel se rapporte à un incident d'un ordre plus particulier. Il y en eut d'autres, mais je me contente ici, au fur et à mesure que le tortillard s'arrête et que l'employé crie « Doncière, Grattevaste, Maineville, etc. », de noter ce que la petite plage ou la garnison m'évoque. J'ai déjà parlé de Maineville, Mediavilla, et de l'importance qu'elle prenait à cause de cette somptueuse maison de femme qui avait été récemment construite, non sans éveiller les protestations inutiles des mères de famille. Mais avant de dire en quoi Maineville a quelque rapport dans ma mémoire avec Morel et M. de Charlus, il me faut noter la disproportion, que j'aurai plus tard à approfondir, entre l'importance que Morel attachait à garder libre certaines heures et l'insignifiance des occupations auxquelles il prétendait les employer, cette même disproportion se retrouvant au milieu des explications d'un autre genre qu'il donnait à M. de Charlus. Lui, qui jouait au désintéressé avec le baron, et pouvait y jouer sans risque, vu la générosité de son protecteur. Quand il désirait passer la soirée de son côté pour donner une leçon, etc., il ne manquait pas d'ajouter à son prétexte ces mots dits avec un sourire d'avidité. « Et puis, cela peut me faire gagner 40 francs, ce n'est pas rien. Permettez-moi d'y aller, car, vous voyez, c'est mon intérêt. Dame, je n'ai pas de rente comme vous, j'ai ma situation à faire. C'est le moment de gagner des sous. » Morel n'était pas, en désirant donner sa leçon, tout à fait sincère. D'une part, que l'argent n'est pas de couleur est faux. Une manière nouvelle de le gagner rend du neuf aux pièces que l'usage a ternies. S'il était vraiment sorti pour une leçon, il est possible que 2 louis remis au départ par une élève lui eussent produit un effet autre que 2 louis tombés de la main de M. de Charlus. Puis, l'homme le plus riche ferait pour 2 louis des kilomètres qui deviennent des lieues si l'on est fils d'un valet de chambre. Mais souvent M. de Charlus avait, sur la réalité de la leçon de violon, des doutes d'autant plus grands que souvent le musicien invoquait des prétextes d'un autre genre, d'un ordre entièrement désintéressé au point de vue matériel, et d'ailleurs absurde. Morel ne pouvait ainsi s'empêcher de présenter une image de sa vie, mais volontairement et involontairement aussi, tellement enténébrée que certaines parties seules se laissaient distinguer. Pendant 1 mois, il se mit à la disposition de M. de Charlus, à condition de garder ses soirées libres, car il désirait suivre avec continuité des cours d'algèbre. Venir voir après M. de Charlus? Ah, c'était impossible, les cours duraient parfois fort tard. « Même après 2 heures du matin ?» demandait le baron. « Des fois. Mais l'algèbre s'apprend aussi facilement dans un livre. Même plus facilement, car je ne comprends pas grand-chose au cours. Alors, d'ailleurs, l'algèbre ne peut te servir à rien.
J'aime bien cela, ça dissipe ma neurasthénie.
Cela ne peut pas être l'algèbre qui lui fait demander des permissions de nuit, se disait Monsieur de Charlus. Serait-il attaché à la police?
En tout cas, Morel, quelque objection qu'on fît, réservait certaines heures tardives, que ce fût à cause de l'algèbre ou du violon. Une fois, ce ne fut ni l'un ni l'autre, mais le prince de Guermantes, qui, venu passer quelques jours sur cette côte pour rendre visite à la duchesse de Luxembourg, rencontra le musicien, sans savoir qui il était, sans être davantage connu de lui, et lui offrit 50 francs pour passer la nuit ensemble dans la maison de femme de Maineville. Double plaisir pour Morel, du gain reçu de M. de Guermantes et de la volupté d'être entouré de femmes dont les seins bruns se montraient à découvert. Je ne sais comment M. de Charlus eut l'idée de ce qui s'était passé et de l'endroit, mais non du séducteur. Fou de jalousie, et pour connaître celui-ci, il télégraphia à Jupien, qui arriva 2 jours après. Et quand, au commencement de la semaine suivante, Morel annonça qu'il serait encore absent, le baron demanda à Jupien s'il se chargerait d'acheter la patronne de l'établissement et d'obtenir qu'on les cachât, lui et Jupien, pour assister à la scène. « C'est entendu, je vais m'en occuper, ma petite gueule, » répondit Jupien au baron. On ne peut comprendre à quel point cette inquiétude agitait et par là même avait momentanément enrichi l'esprit de M. de Charlus. L'amour cause ainsi de véritables soulèvements géologiques de la pensée. Dans celui de M. de Charlus, qui, il y a quelques jours, ressemblait à une plaine si uniforme qu'au plus loin il n'aurait pu apercevoir une idée au ras du sol, s'était brusquement dressé, dur comme la pierre, un massif de montagnes, mais de montagnes aussi sculptées que si quelque statuaire, au lieu d'emporter le marbre, l'avait ciselé sur place, et où se tordaient, en groupes géants et titaniques, la fureur, la jalousie, la curiosité, l'envie, la haine, la souffrance, l'orgueil, l'épouvante et l'amour. Cependant, le soir où Morel devait être absent était arrivé. La mission de Jupien avait réussi. Lui et le baron devaient venir vers 11 heures du soir, et on les cacherait. 3 rues avant d'arriver à cette magnifique maison de prostitution, où on venait de tous les environs élégants, M. de Charlus marchait sur la pointe des pieds, dissimulait sa voix, suppliait Jupien de parler moins fort, de peur que de l'intérieur, Morel les entendit. Or, dès qu'il fut entré à pas de loup dans le vestibule, M. de Charlus, qui avait peu l'habitude de ce genre de lieu, à sa terreur et à sa stupéfaction, se trouva dans un endroit plus bruyant que la bourse ou l'hôtel des ventes. C'est en vain qu'il recommandait de parler plus bas à des soubrettes qui se pressaient autour de lui. D'ailleurs, leur voix même était couverte par le bruit de cris et d'adjudications que faisait une vieille sous-maîtresse, à la perruque fort brune, au visage où craquelait la gravité d'un notaire ou d'un prêtre espagnol, et qui lançait à toute minute, avec un bruit de tonnerre, en laissant alternativement ouvrir et refermer les portes, comme on règle la circulation des voitures. « Mettez monsieur au 28 dans la chambre espagnole. On ne passe plus. Rouvrez la porte. Ces messieurs demandent mademoiselle Noémie. Elle les attend dans le salon persan. » Monsieur de Charlus était effrayé, comme un provincial qui a à traverser les boulevards. Et, pour prendre une comparaison infiniment moins sacrilège que le sujet représenté dans les chapiteaux du porche de la vieille église de Corleville, les voix des jeunes bonnes répétaient en plus bas, sans se lasser, l'ordre de la sous-maîtresse, comme ces catéchismes qu'on entend les élèves psalmodier dans la sonorité d'une église de campagne. Si peur qu'il eût, M. de Charlus, qui, dans la rue, tremblait d'être entendu, se persuadant que Morel était à la fenêtre, ne fut peut-être pas tout de même aussi effrayé dans le rugissement de ces escaliers immenses, où on comprenait que des chambres, rien ne pouvait être aperçu. Enfin, au terme de son calvaire, il trouva Mademoiselle Noémie, qui devait les cacher avec Jupien, mais commença par l'enfermer dans un salon persan, fort somptueux, d'où il ne voyait rien. Elle lui dit que Morel avait demandé à prendre une orangeade, et que, dès qu'on la lui aurait servie, on conduirait les deux voyageurs dans un salon transparent. En attendant, comme on la réclamait, elle leur promit, comme dans un conte, que pour leur faire passer le temps, elle allait leur envoyer une petite dame intelligente. Car elle, on l'appelait. La petite dame intelligente avait un peignoir persan qu'elle voulait ôter. Monsieur de Charlus lui demanda de n'en rien faire, et elle se fit monter du champagne qui coûtait 40 francs la bouteille. Morel, en réalité, pendant ce temps, était avec le prince de Guermantes. Il avait, pour la forme, fait semblant de se tromper de chambre, était entré dans une où il y avait deux femmes, lesquelles s'étaient empressées de laisser seules les deux messieurs. Monsieur de Charlus ignorait tout cela, mais pestait, voulait ouvrir les portes, fit redemander Mademoiselle Noémie, laquelle, ayant entendu la petite dame intelligente donner à Monsieur de Charlus des détails sur Morel, non concordant avec ceux qu'elle-même avait donnés à Jupien, la fit déguerpir et envoya bientôt, pour remplacer la petite dame intelligente, une petite dame gentille, qui ne leur montra rien de plus, mais leur dit combien la maison était sérieuse et demanda, elle aussi, du champagne. Le baron, écumant, fit revenir Mademoiselle Noémie, qui leur dit « Oui, c'est un peu long, ces dames prennent des pauses, il n'a pas l'air d'avoir envie de rien faire. » Enfin, devant les promesses du baron, ses menaces, Mademoiselle Noémie s'en alla d'un air contrarié, en les assurant qu'il n'attendrait pas plus de 5 minutes. Ces 5 minutes durèrent 1 heure, après quoi Noémie conduisit à pas de loup Monsieur de Charlus, ivre de fureur, et Jupien, désolé, vers une porte entrebâillée, en leur disant « Vous allez très bien voir. Du reste, en ce moment, ce n'est pas très intéressant. Il est avec 3 dames. Il leur raconte sa vie de régiment. » Enfin, le baron put voir par l'ouverture de la porte et aussi dans les glaces. Mais une terreur mortelle le força de s'appuyer au mur. C'était bien Morel qu'il avait devant lui. Mais, comme si les mystères païens et les enchantements existaient encore, c'était plutôt l'ombre de Morel. Morel embaumé. Pas même Morel ressuscité comme Lazare. Une apparition de Morel. Un fantôme de Morel. Morel revenant ou évoqué dans cette chambre. Où partout, les murs et les divans répétaient des emblèmes de sorcellerie, qui étaient à quelques mètres de lui, de profil. Morel avait, comme après la mort, perdu toute couleur. Entre ces femmes, avec lesquelles il semblait qu'il eût dû s'ébattre joyeusement, livide, il restait figé dans une immobilité artificielle. Pour boire la coupe de champagne qui était devant lui, son bras sans force essayait lentement de se tendre et retombait. On avait l'impression de cet équivoque qui fait qu'une religion parle d'immortalité, mais entend par là quelque chose qui n'exclut pas le néant. Les femmes le pressaient de questions. « Vous voyez, dit tout bas Mademoiselle Noémie au baron, elle lui parle de sa vie de régiment. C'est amusant, n'est-ce pas ? » Et elle rit. « Vous êtes content ? Il est calme, n'est-ce pas ? » ajouta-t-elle, comme elle aurait dit d'un mourant. Les questions des femmes se pressaient, mais Morel, inanimé, n'avait pas la force de leur répondre. Le miracle même d'une parole murmurée ne se produisait pas. Monsieur de Charlus n'eut qu'un instant d'hésitation. Il comprit la vérité, et que, soit maladresse de Jupien quand il était allé s'entendre, soit puissance expansive des secrets confiés qui fait qu'on ne les garde jamais, soit caractère indiscret de ces femmes, soit crainte de la police, on avait prévenu Morel que 2 messieurs avaient payé fort cher pour le voir,
On avait fait sortir le prince de Guermantes, métamorphosé en trois femmes, et placé le pauvre Morel tremblant, paralysé par la terreur, de telle façon que, si monsieur de Charlus le voyait mal, lui, terrorisé, sans parole, n'osant pas prendre son verre de peur de le laisser tomber, voyait en plein le larron. L'histoire, au reste, ne finit pas mieux pour le prince de Guermantes. Quand on l'avait fait sortir, pour que monsieur de Charlus ne le vît pas, furieux de sa déconvenue, sans soupçonner qui en était l'auteur, il avait supplié Morel, sans toujours vouloir lui faire connaître qui il était, de lui donner rendez-vous pour la nuit suivante, dans la toute petite villa qu'il avait louée, et que, malgré le peu de temps qu'il devait y rester, il avait, suivant la même maniaque habitude que nous avons autrefois remarquée chez madame de Villeparisis, décoré de quantité de souvenirs de famille, pour se sentir plus chez soi. Donc, le lendemain, Morel, retournant la tête à toute minute, tremblant d'être suivi et épié par monsieur de Charlus, avait fini, n'ayant remarqué aucun passant suspect, par entrer dans la villa. Un valet le fit entrer au salon en lui disant qu'il allait prévenir monsieur. Son maître lui avait recommandé de ne pas prononcer le nom de prince, de peur d'éveiller des soupçons. Mais quand Morel se trouva seul et voulut regarder dans la glace si sa mèche n'était pas dérangée, ce fut comme une hallucination. Sur la cheminée, les photographies, reconnaissables pour le violoniste, car il les avait vues chez monsieur de Charlus, de la princesse de Guermantes, de la duchesse de Luxembourg, de madame de Villeparisis, le pétrifièrent d'abord d'effroi. Au même moment, il aperçut celle de monsieur de Charlus, laquelle était un peu en retrait. Le baron semblait immobiliser sur Morel un regard étrange et fixe. Fou de terreur, Morel, revenant de sa stupeur première, ne doutant pas que ce ne fût un guet-apens où monsieur de Charlus l'avait fait tomber pour éprouver s'il était fidèle, dégringola quatre à quatre les quelques marches de la villa, se mit à courir à toutes jambes sur la route, et quand le prince de Guermantes, après avoir cru faire à une connaissance de passage le stage nécessaire, non sans s'être demandé si c'était bien prudent et si l'individu n'était pas dangereux, entra dans son salon. Il n'y trouva plus personne. Il eut beau, avec son valet, par crainte de cambriolage et revolver au poing, explorer toute la maison, qui n'était pas grande, les recoins du jardinet, le sous-sol, le compagnon dont il avait cru la présence certaine avait disparu. Il le rencontra plusieurs fois au cours de la semaine suivante, mais chaque fois c'était Morel, l'individu dangereux, qui se sauvait comme si le prince l'avait été plus encore. Buté dans ses soupçons, Morel ne les dissipa jamais. Et même à Paris, la vue du prince de Guermantes suffisait à le mettre en fuite. Par où monsieur de Charlus fut protégé d'une infidélité qui le désespérait, et vengé sans l'avoir jamais imaginé, ni surtout comment. Mais déjà les souvenirs de ce qu'on m'avait raconté à ce sujet sont remplacés par d'autres, car le B.C.N., reprenant sa marche de taco, continue de déposer ou de prendre les voyageurs aux stations suivantes. À Grattevaste, où habitait sa sœur, avec laquelle il était allé passer l'après-midi, montait quelquefois M. Pierre de Verjus, comte de Crécy, qu'on appelait seulement le comte de Crécy. Gentilhomme pauvre, mais d'une extrême distinction, que j'avais connu par les Cambremers, avec qui il était d'ailleurs peu lié. Réduit à une vie extrêmement modeste, presque misérable, je sentais qu'un cigare, une consommation, était chose si agréable pour lui que je pris l'habitude, les jours où je ne pouvais voir Albertine, de l'inviter à Balbec. Très fin et s'exprimant à merveille, tout blanc, avec de charmants yeux bleus, il parlait surtout du bout des lèvres, très délicatement, des conforts de la vie seigneuriale, qu'il avait évidemment connue, et aussi de généalogie. Comme je lui demandais ce qui était gravé sur sa bague, il me dit avec un sourire modeste « C'est une branche de verjus. » Et il ajouta avec un plaisir dégustateur « Nos armes sont une branche de verjus. » Symbolique, puisque je m'appelle verjus. Tigelée et feuillée de sinople. Mais je crois qu'il aurait eu une déception si, à Balbec, je ne lui avais offert à boire que du verjus. Il aimait les vins les plus coûteux, sans doute par privation, par connaissance approfondie de ce dont il était privé, par goût, peut-être aussi par penchant exagéré. Aussi, quand je l'invitais à dîner à Balbec, il commandait le repas avec une science raffinée, mais mangeait un peu trop, et surtout buvait, faisant chambrer les vins qui doivent l'être, frapper ceux qui exigent d'être dans de la glace. Avant le dîner et après, il indiquait la date ou le numéro qu'il voulait pour un porto ou une fine, comme il eût fait pour l'érection, généralement ignorée, d'un marquisat, mais qu'il connaissait aussi bien. Comme j'étais pour aimer un client préféré, il était ravi que je donnasse de ces dîners extra et criait au garçon « Vite, dressez la table 25 !» Il ne disait même pas « dressez », mais « dressez-moi », comme si ça avait été pour lui. Et comme le langage des maîtres d'hôtel n'est pas tout à fait le même que celui des chefs de rang, demi-chefs, commis, etc., au moment où je demandais l'addition, il disait au garçon qui nous avait servi, avec un geste répété et apaisant du revers de la main, comme s'il voulait calmer un cheval prêt à prendre le mort aux dents, « N'allez pas trop fort pour l'addition. Allez doucement, très doucement. » Puis, comme le garçon partait muni de cette aide-mémoire, Aimé, craignant que ses recommandations ne fussent pas exactement suivies, le rappelait. « Attendez, je vais chiffrer moi-même. » Et comme je lui disais que cela ne faisait rien, j'ai pour principe que, comme on dit vulgairement, on ne doit pas estamper le client. Quant au directeur, comme les vêtements de mon invité étaient simples, toujours les mêmes et assez usés, et pourtant personne n'eût si bien pratiqué l'art de s'habiller fastueusement, comme un élégant de Balzac, s'il en avait eu les moyens. Il se contentait, à cause de moi, d'inspecter de loin si tout allait bien, et d'un regard de faire mettre une cale sous un pied de la table qui n'était pas d'aplomb. Ce n'est pas qu'il n'eût su, bien qu'il cachât ses débuts comme plongeur, mettre la main à la pâte comme un autre. Il fallut pourtant une circonstance exceptionnelle pour qu'un jour il découpât lui-même les dindonneaux. J'étais sorti, mais j'ai su qu'il l'avait fait avec une majesté sacerdotale, entouré, à distance respectueuse du dressoir, d'un cercle de garçons qui cherchaient, par là, moins à apprendre qu'à se faire bien voir, et avaient un air béat d'admiration. Vu d'ailleurs par le directeur, plongeant d'un geste lent dans le flanc des victimes et n'en détachant pas plus ses yeux pénétrés de sa haute fonction que s'il avait dû y lire quelque augure, ils ne le furent nullement. Le sacrificateur ne s'aperçut même pas de mon absence. Quand il l'apprit, elle le désola. « Comment ? Vous ne m'avez pas vu découper moi-même les dindonneaux ?» Je lui répondis que, n'ayant pu voir jusqu'ici Rome, Venise, Sienne, le Prado, le musée de Dresde, les Indes, Sarah d'Enfèdre, je connaissais la résignation. Et que j'ajouterai son découpage des dindonneaux à ma liste. La comparaison avec l'art dramatique, Sarah d'Enfèdre, fut la seule qu'il parut comprendre, car il savait par moi que, les jours de grande représentation, Coquelin aîné avait accepté des rôles de débutant, celui-même d'un personnage qui ne dit qu'un mot ou ne dit rien. « C'est égal, je suis désolée pour vous. » Quand est-ce que je découperai de nouveau? Il faudrait un événement, il faudrait une guerre. Il fallut en effet l'armistice. Depuis ce jour-là, le calendrier fut changé. On compta ainsi. C'est le lendemain du jour où j'ai découpé moi-même les dindonneaux. C'est juste 8 jours après que le directeur a découpé lui-même les dindonneaux. Ainsi, cette prosectomie donna-t-elle, comme la naissance du Christ ou l'égire, le point de départ d'un calendrier différent des autres, mais qui ne prit pas leur extension et n'égala pas leur durée. La tristesse de la vie de M. de Crécy venait, tout autant que de ne plus avoir de chevaux et une table succulente, de ne voisiner qu'avec des gens qui pouvaient croire que Cambremer et Guermantes étaient tout un. Quand il vit que je savais que le Grandin, lequel se faisait maintenant appeler le grand de mes églises, n'y avait aucune espèce de droit, allumé d'ailleurs par le vin qu'il buvait, il eut une espèce de transport de joie. Sa sœur me disait d'un air entendu « Mon frère n'est jamais si heureux que quand il peut causer avec vous. » Il se sentait en effet exister, depuis qu'il avait découvert quelqu'un qui savait la médiocrité des Cambremers et la grandeur des Guermantes. Quelqu'un pour qui l'univers social existait. Tel, après l'incendie de toutes les bibliothèques du globe et à l'ascension d'une race entièrement ignorante, un vieux latiniste reprendrait pied et confiance dans la vie en entendant quelqu'un lui citer un vers d'Horace. Aussi, s'il ne quittait jamais le wagon sans me dire « À quand notre petite réunion ?» C'était autant par avidité de parasite, par gourmandise d'érudit, et parce qu'il considérait les agapes de Balbec comme une occasion de causer, en même temps, des sujets qui lui étaient chers et dont il ne pouvait parler avec personne. Et analogues en cela, à ses dîners, où se réunit à date fixe, devant la table particulièrement succulente du Cercle de l'Union, la Société des bibliophiles. Très modeste en ce qui concernait sa propre famille, ce ne fut pas par M. de Crécy que j'appris qu'elle était très grande et un authentique rameau, détaché en France de la famille anglaise qui porte le nom de Crécy. Quand je sus qu'il était un vrai Crécy, je lui racontai qu'une nièce de Madame de Guermantes avait épousé un Américain du nom de Charles Crécy et lui dit que je pensais qu'il n'avait aucun rapport avec lui. « Aucun, me dit-il. Pas plus. Bien, du reste, que ma famille n'ait pas autant d'illustrations. Que beaucoup d'Américains qui s'appellent Montgomery, Berry, Chandos ou Capel n'ont de rapport avec les familles de Pembroke, de Buckingham, d'Essex ou avec le duc de Berry. » Je pensais plusieurs fois à lui dire, pour l'amuser, que je connaissais Madame Swann, qui, comme Cocotte, était connue autrefois sous le nom d'Odette de Crécy. Mais bien que le duc d'Alençon n'eût pu se froisser qu'on parlât avec lui d'Émilienne d'Alençon, je ne me sentis pas assez liée avec M. de Crécy pour conduire avec lui la plaisanterie jusque-là. « Il est une grande famille, me dit un jour M. de Montsurvent. Son patronyme est Sailor. » Et il ajouta que, sur son vieux castel au-dessus d'un Carville, d'ailleurs devenu presque inhabitable, et que, bien que né fort riche, il était aujourd'hui trop ruiné pour réparer, se lisait encore l'antique devise de la famille. Je trouvais cette devise très belle, qu'on l'appliqua soit à l'impatience d'une race de proies nichée dans cette terre, d'où elle devait jadis prendre son vol, soit aujourd'hui à la contemplation du déclin, à l'attente de la mort prochaine dans cette retraite dominante et sauvage. C'est en ce double sens, en effet, que joue avec le nom de Sailor cette devise qui est « Ne sait l'heure ». À Ermenonville montait quelquefois M. de Chevrigny, dont le nom, nous dit Brichot, signifiait, comme celui de Monseigneur de Cabrières, « lieu où s'assemblent les chèvres ». Il était parent des Cambremer, et à cause de cela, et par une fausse appréciation de l'élégance, ceux-ci l'invitaient souvent à Féterne, mais seulement quand ils n'avaient pas d'invité à éblouir. Vivant toute l'année à Beau-Soleil, M. de Chevrigny était resté plus provincial que, Aussi, quand il allait passer quelques semaines à Paris, il n'y avait pas un seul jour de perdu pour tout ce qu'il y avait à voir. C'était au point que parfois, un peu étourdi par le nombre de spectacles trop rapidement digérés, quand on lui demandait s'il avait vu une certaine pièce, il lui arrivait de n'en être plus bien sûr. Mais ce vague était rare, car il connaissait les choses de Paris avec ce détail particulier aux gens qui y viennent rarement. Il me conseillait les nouveautés à aller voir. Cela en vaut la peine. Ne les considérant du reste qu'au point de vue de la bonne soirée qu'elles font passer, et ignorant du point de vue esthétique jusqu'à ne pas se douter qu'elles pouvaient en effet constituer parfois une nouveauté dans l'histoire de l'art. C'est ainsi que, parlant de tout sur le même plan, il nous disait « Nous sommes allés une fois à l'Opéra Comique, mais le spectacle n'est pas fameux. Cela s'appelle Péléas et Mélisande. C'est insignifiant. Perrier joue toujours bien, mais il vaut mieux le voir dans autre chose. En revanche, au gymnase, on donne la Châtelaine. Nous y sommes retournés deux fois. Ne manquez pas d'y aller. Cela mérite d'être vu. Et puis, c'est joué à ravir. Vous avez Fréval, Marie Magnier, Baron Fils. » Il me citait même des noms d'acteurs que je n'avais jamais entendu prononcer, et sans les faire précéder de « monsieur, madame, mademoiselle », comme eût fait le duc de Guermantes, lequel parlait du même ton cérémonieusement méprisant des chansons de mademoiselle Yvette Guilbert et des expériences de monsieur Charcot. Monsieur de Chevrigny n'en usait pas ainsi. Il disait « Cornalia et Deli » comme il eût dit « Voltaire et Montesquieu », car chez lui, à l'égard des acteurs, comme de tout ce qui était parisien, le désir de se montrer dédaigneux qu'avait l'aristocrate était vaincu par celui de paraître familier qu'avait le provincial. Dès après le premier dîner que j'avais fait à la Raspelière avec ce qu'on appelait encore à Féterne le jeune mariage, bien que monsieur et madame de Cambremer ne fussent plus, tant s'en fallait, de la première jeunesse, la vieille marquise m'avait écrit une de ces lettres dont on reconnaît l'écriture entre des milliers. Elle me disait « Amenez votre cousine délicieuse, charmante, agréable. Ce sera un enchantement, un plaisir, manquant toujours avec une telle infaillibilité la progression attendue par celui qui recevait sa lettre, que je finis par changer d'avis sur la nature de ces diminuendos, par les croire voulus, et y trouver la même dépravation du goût, transposée dans l'ordre mondain, qui poussait Sainte-Beuve à briser toutes les alliances de mots, à altérer toute expression un peu habituelle. Deux méthodes, enseignées sans doute par des maîtres différents, se contrariaient dans ce style épistolaire. La deuxième, faisant racheter à madame de Cambremer la banalité des adjectifs multiples, en les employant en gamme descendante, en évitant de finir sur l'accord parfait. En revanche, je penchais à voir dans ces gradations inverses, non plus du raffinement, comme quand elles étaient l'œuvre de la marquise Douairière, mais de la maladresse, toutes les fois qu'elles étaient employées par le marquis son fils ou par ses cousines. Car dans toute la famille, jusqu'à un degré assez éloigné, et par une imitation admirative de tante Zélia, la règle des trois adjectifs était très en honneur. De même qu'une certaine manière enthousiaste de reprendre sa respiration en parlant. Imitation passée dans le sang, d'ailleurs. Et quand, dans la famille, une petite fille, dès son enfance, s'arrêtait en parlant pour avaler sa salive, on disait « Elle tient de tante Zélia ». On sentait que plus tard, ses lèvres tendraient assez vite à s'ombrager d'une légère moustache, et on se promettait de cultiver chez elle les dispositions qu'elle aurait pour la musique. Les relations des Cambremer ne tardèrent pas à être moins parfaites avec madame Verdurin qu'avec moi, pour différentes raisons. Il voulait inviter celle-ci. La jeune marquise me disait dédaigneusement « Je ne vois pas pourquoi nous ne l'inviterions pas, cette femme. À la campagne, on voit n'importe qui, ça ne tire pas à conséquence. » Mais, au fond, assez impressionné, il ne cessait de me consulter sur la façon dont ils devaient réaliser leur désir de politesse. Je pensais que, comme ils nous avaient invités à dîner, Albertine et moi, avec des amis de Saint-Loup, gens élégants de la région, propriétaires du château de Gourville, et qui représentaient un peu plus que le gratin normand, dont Madame Verdurin, sans avoir l'air d'y toucher, était friande, je conseillais aux Cambremères d'inviter avec eux la patronne. Mais les châtelains de Féterne, par crainte, tant ils étaient timides, de mécontenter leurs nobles amis, ou, tant ils étaient naïfs, que Monsieur et Madame Verdurin s'ennuyassent avec des gens qui n'étaient pas des intellectuels, ou encore, comme ils étaient imprégnés d'un esprit de routine que l'expérience n'avait pas fécondé, de mêler les genres et de commettre un impair, déclarèrent que cela ne corderait pas ensemble, que cela ne bicherait pas, et qu'il valait mieux réserver Madame Verdurin, qu'on inviterait avec tout son petit groupe, pour un autre dîner. Pour le prochain, l'élégant avec les amis de Saint-Loup, ils ne convièrent du petit noyau que Morel, afin que M. de Charlus fût indirectement informé des gens brillants qu'il recevait. Et aussi que le musicien fût un élément de distraction pour les invités, car on lui demanderait d'apporter son violon. On lui adjoignit Cottard, parce que M. de Cambremer déclara qu'il avait de l'entrain et faisait bien dans un dîner. Puis que cela pourrait être commode d'être en bon terme avec un médecin si on n'avait jamais quelqu'un de malade. Mais on l'invita seul, pour ne rien commencer avec la femme. Madame Verdurin fut outrée quand elle apprit que deux membres du petit groupe étaient invités sans elle à dîner à Féterne, en petit comité. Elle dicta au docteur, dont le premier mouvement avait été d'accepter, une fière réponse où il disait « Nous dînons ce soir chez Madame Verdurin. » Pluriel, qui devait être une leçon pour les Cambremères, et leur montrer qu'il n'était pas séparable de Madame Cottard. Quant à Morel, Madame Verdurin n'eut pas besoin de lui tracer une conduite impolie, qu'il tint spontanément. Voici pourquoi. S'il avait, à l'égard de M. de Charlus, en ce qui concernait ses plaisirs, une indépendance qui affligeait le baron, nous avons vu que l'influence de ce dernier se faisait sentir davantage dans d'autres domaines, et qu'il avait, par exemple, élargi les connaissances musicales et rendu plus pur le style du virtuose. Mais ce n'était encore, au moins à ce point de notre récit, qu'une influence. En revanche, il y avait un terrain sur lequel ce que disait M. de Charlus était aveuglément cru et exécuté par Morel. Aveuglément et follement, car non seulement les enseignements de M. de Charlus étaient faux, mais encore, eussent-ils été valables pour un grand seigneur, appliqués à la lettre par Morel, ils devenaient burlesques. Le terrain où Morel devenait si crédule et était si docile à son maître, c'était le terrain mondain. Le violoniste, qui, avant de connaître M. de Charlus, n'avait aucune notion du monde, avait pris à la lettre l'esquisse hautaine et sommaire que lui en avait tracé le baron. « Il y a un certain nombre de familles prépondérantes, » lui avait dit M. de Charlus. « Avant tout, les Guermantes, qui comptent 14 alliances avec la Maison de France, ce qui est d'ailleurs surtout flatteur pour la Maison de France, car c'était à Aldonce de Guermantes, et non à Louis le Gros, son frère consanguin mais puiné, qu'aurait dû revenir le trône de France. Sous Louis XIV, nous drapâmes à la mort de monsieur comme ayant la même grand-mère que le roi. Forte dessous des Guermantes, on peut cependant citer les La Trémoille, descendants des rois de Naples et des comtes de Poitiers. Les Duzès, peu anciens comme famille, mais qui sont les plus anciens pères. Les Luynes, tout à fait récents, mais avec l'éclat de grandes alliances. Les Choiseul, les Harcourt, les La Rochefoucauld. Ajoutez encore les Noailles, malgré le comte de Toulouse, les Montesquieu, les Castellane, et, sauf oubli, c'est tout. Quant à tous les petits messieurs qui s'appellent marquis de Cambremerde ou de Vatferfiche, il n'y a aucune différence entre eux et le dernier piou-piou de votre régiment. Que vous alliez faire pipi chez la comtesse Caca ou Caca chez la baronne Pipi, c'est la même chose. Vous aurez compromis votre réputation et pris un torchon brunneux comme papier hygiénique, ce qui est malpropre. Morel avait recueilli pieusement cette leçon d'histoire, peut-être un peu sommaire. Il jugeait les choses comme s'il était lui-même un guermantes et souhaitait une occasion de se trouver avec les faux la tour d'Auvergne pour leur faire sentir, par une poignée de main dédaigneuse, qu'il ne les prenait guère au sérieux. Quant aux Cambremer, justement voici qu'il pouvait leur témoigner qu'il n'était pas plus que le dernier piou-piou de son régiment. Il ne répondit pas à leur invitation, et le soir du dîner s'excusa à la dernière heure par un télégramme, ravi comme s'il venait d'agir en prince du sang. Il faut du reste ajouter qu'on ne peut imaginer combien, d'une façon plus générale, M. de Charlus pouvait être insupportable, tatillon, et même, lui si fin, bête, dans toutes les occasions où entraient en jeu les défauts de son caractère. On peut dire, en effet, que ceux-ci sont comme une maladie intermittente de l'esprit. Qui n'a remarqué le fait sur des femmes, et même des hommes, doués d'intelligence remarquable, mais affligés de nervosité? Quand ils sont heureux, calmes, satisfaits de leur entourage, ils font admirer leurs dons précieux. C'est, à la lettre, la vérité qui parle par leur bouche. Une migraine, une petite piqûre d'amour-propre suffit à tout changer. La lumineuse intelligence, brusque, convulsive et rétrécie, ne reflète plus qu'un moi irrité, soupçonneux, coquet, faisant tout ce qu'il faut pour déplaire. La colère des Cambremer fut vive. Et, dans l'intervalle, d'autres incidents amenèrent une certaine tension dans leur rapport avec le petit clan. Comme nous revenions, les Cottard, Charlus, Brichot, Morel et moi, d'un dîner à la Raspelière, et que les Cambremer, qui avaient déjeuné chez des amis à Arambouville, avaient fait à l'aller une partie du trajet avec nous. Vous qui aimez tant Balzac et savez le reconnaître dans la société contemporaine, avais-je dit à M. de Charlus, vous devez trouver que ces Cambremer sont échappés des scènes de la vie de province. Mais M. de Charlus, absolument comme s'il avait été leur ami, et si je l'eusse froissé par ma remarque, me coupa brusquement la parole. « Vous dites cela parce que la femme est supérieure au mari, » me dit-il d'un ton sec. « Oh, je ne voulais pas dire que c'était la muse du département, ni Madame de Bargeton, bien que... » M. de Charlus m'interrompit encore. « Dites plutôt Madame de Morceau. » Le train s'arrêta et Brichot descendit. « Nous avions beau vous faire des signes, vous êtes terrible. »« Comment cela ? Voyons, ne vous êtes-vous pas aperçu que Brichot est amoureux fou de Madame de Cambremer ?» Je vis par l'attitude des Cottard et de Charlie que cela ne faisait pas l'ombre d'un doute dans le petit noyau. Je crus qu'il y avait de la malveillance de leur part. « Voyons, vous n'avez pas remarqué comme il a été troublé quand vous avez parlé d'elle ?» reprit M. de Charlus, qui aimait montrer qu'il avait l'expérience des femmes et parler du sentiment qu'elles inspirent d'un air naturel et comme si ce sentiment était celui qu'il éprouvait lui-même habituellement. Mais un certain ton d'équivoque paternité avec tous les jeunes gens, malgré son amour exclusif pour Morel, démentit par le ton les vues d'homme à femme qu'il émettait. « Oh, ces enfants » dit-il d'une voix aiguë, mièvre et cadencée. « Il faut tout leur apprendre. Ils sont innocents comme l'enfant qui vient de naître. Ils ne savent pas reconnaître quand un homme est amoureux d'une femme. À votre âge, j'étais plus dessalé que cela » ajouta-t-il, car il aimait employer les expressions du monde apache, peut-être par goût, peut-être pour ne pas avoir l'air, en les évitant, d'avouer qu'il fréquentait ceux dont c'était le vocabulaire courant. Quelques jours plus tard, il fallut bien me rendre à l'évidence et reconnaître que Brichot était épris de la marquise. Malheureusement, il accepta plusieurs déjeuners chez elle. Madame Verdurin estima qu'il était temps de mettre le holà. En dehors de l'utilité qu'elle voyait à une intervention pour la politique du petit noyau, elle prenait à ces sortes d'explications et au drame qu'il déchaînait un goût de plus en plus vif et que l'oisiveté fait naître, aussi bien que dans le monde aristocratique, dans la bourgeoisie. Ce fut un jour de grande émotion à la Raspelière, quand on vit Madame Verdurin disparaître pendant une heure avec Brichot, à qui on sut qu'elle avait dit que Madame de Cambremer se moquait de lui, qu'il était la fable de son salon, qu'il allait déshonorer sa vieillesse, compromettre sa situation dans l'enseignement. Elle alla jusqu'à lui parler en termes touchants de la blanchisseuse avec qui il vivait à Paris et de leur petite fille. Elle l'emporta. Brichot cessa d'aller à Féterne. Mais son chagrin fut tel que pendant 2 jours, on crut qu'il allait perdre complètement la vue. Et sa maladie, en tout cas, avait fait un bond en avant qui resta acquis. Cependant, les Cambremer, dont la colère contre Morel était grande, invitèrent une fois, et tout exprès, Monsieur de Charlus, mais sans lui. Ne recevant pas de réponse du baron, ils craignirent d'avoir fait une gaffe, et trouvant que la rancune est mauvaise conseillère, écrivirent un peu tardivement à Morel, platitude qui fit sourire Monsieur de Charlus en lui montrant son pouvoir. « Vous répondrez pour nous deux que j'accepte, » dit le baron à Morel. Le jour du dîner venu, on attendait dans le grand salon de Féterne. Les Cambremer donnaient en réalité le dîner pour la fleur de chic qu'étaient Monsieur et Madame Ferré. Mais ils craignaient tellement de déplaire à Monsieur de Charlus que, bien qu'ayant connu les Ferré par Monsieur de Chevrigny, Madame de Cambremer se sentit la fièvre quand, le jour du dîner, elle vit celui-ci venir leur faire une visite à Féterne. On inventa tous les prétextes pour le renvoyer à Beausoleil au plus vite. Pas assez pourtant pour qu'il ne croisât pas dans la cour les Ferré, qui furent aussi choqués de le voir chassé que lui honteux. Mais, coûte que coûte, les Cambremer voulaient épargner à M. de Charlus la vue de M. de Chevrigny, jugeant celui-ci provincial à cause de nuances qu'on néglige en famille, mais dont on ne tient compte que vis-à-vis des étrangers, qui sont précisément les seuls qui ne s'en apercevraient pas. Mais on n'aime pas leur montrer les parents qui sont restés ce que l'on s'était forcé de cesser d'être. Quant à Monsieur et Madame Ferré, ils étaient au plus haut degré de ce qu'on appelle des gens très bien. Aux yeux de ceux qui les qualifiaient ainsi, sans doute les Guermantes, les Rohan et bien d'autres, étaient aussi des gens très bien, mais leur nom dispensait de le dire. Comme tout le monde ne savait pas la grande naissance de la mère de Madame Ferré, et le cercle extraordinairement fermé qu'elle et son mari fréquentaient, quand on venait de les nommer, pour expliquer, on ajoutait toujours que c'était des gens « tout ce qu'il y a de mieux ». Leur nom obscur leur dictait-il une sorte de hautaine réserve? Toujours est-il que les Ferré ne voyaient pas des gens que des La Trémoille auraient fréquentés. Il avait fallu la situation de reine du bord de la mer que la vieille marquise de Cambremer avait dans la Manche, pour que les Ferré vinssent à une de ces matinées chaque année. On les avait invités à dîner, et on comptait beaucoup sur l'effet qu'allait produire sur eux Monsieur de Charlus. On annonça discrètement qu'il était au nombre des convives. Par hasard, Madame Ferré ne le connaissait pas. Madame de Cambremer en ressentit une vive satisfaction. Et le sourire du chimiste, qui va mettre en rapport pour la première fois 2 corps particulièrement importants, erra sur son visage. La porte s'ouvrit, et Madame de Cambremer faillit se trouver mal en voyant Morel entrer seul. Comme un secrétaire des commandements chargé d'excuser son ministre, comme une épouse morganatique qui exprime le regret qu'a le prince d'être souffrant, ainsi en usait Madame de Clinchamp à l'égard du duc d'Aumale. Morel dit du ton le plus léger. « Le baron ne pourra pas venir. Il est un peu indisposé. Du moins, je crois que c'est pour cela. Je ne l'ai pas rencontré cette semaine. » Ajouta-t-il, désespérant jusque par ses dernières paroles, Madame de Cambremer, qui avait dit à Monsieur et Madame Ferré que Morel voyait Monsieur de Charlus à toutes les heures du jour. Les Cambremer feignirent que l'absence du baron était un agrément de plus à la réunion, et, sans se laisser entendre de Morel, disaient à leurs invités « Nous nous passerons de lui, n'est-ce pas? Ce ne sera que plus agréable. » Mais ils étaient furieux et soupçonnèrent une cabale montée par Madame Verdurin, et du tac au tac, quand celle-ci les réinvita à la Raspelière, Monsieur de Cambremer, ne pouvant résister au plaisir de revoir sa maison et de se retrouver dans le petit groupe, vint, mais seul, en disant que la marquise était désolée, mais que son médecin lui avait ordonné de garder la chambre. Les Cambremer crurent, par cette demi-présence, à la fois donner une leçon à Monsieur de Charlus et montrer aux Verdurin qu'ils n'étaient tenus envers eux qu'à une politesse limitée, comme les princesses du sang autrefois reconduisaient les duchesses, mais seulement jusqu'à la moitié de la seconde chambre. Au bout de quelques semaines, ils étaient à peu près brouillés. Monsieur de Cambremer m'en donnait ses explications. « Je vous dirais qu'avec Monsieur de Charlus, c'était difficile. Il est extrêmement dreyfusard. »« Mais non !»« Si, en tout cas, son cousin, le prince de Guermantes, l'est. On leur jette assez la pierre pour ça. J'ai des parents très à l'œil là-dessus. Je ne peux pas fréquenter ces gens-là. Je me brouillerais avec toute ma famille. »« Puisque le prince de Guermantes est dreyfusard, cela ira d'autant mieux, » dit Madame de Cambremer, « que Saint-Loup, qui, dit-on, épouse sa nièce, l'est aussi. C'est même peut-être la raison du mariage. » « Voyons, ma chère, ne dites pas que Saint-Loup, que nous aimons beaucoup, est dreyfusard. On ne doit pas répandre ces allégations à la légère, » dit Monsieur de Cambremer. « Vous le feriez bien voir dans l'armée. » « Il l'a été, mais il ne l'est plus, » dis-je à Monsieur de Cambremer. « Quant à son mariage avec Mademoiselle de Guermantes-Brassac, est-ce vrai ? On ne parle que de ça. » « Mais vous êtes bien placé pour le savoir. »« Mais je vous répète qu'il me l'a dit à moi-même qu'il était dreyfusard, » dit Madame de Cambremer. « C'est du reste très excusable. Les Guermantes sont à moitié allemands. »« Pour les Guermantes de la rue de Varennes, vous pouvez dire tout à fait, » dit Cancan. « Mais Saint-Loup, c'est une autre paire de manches. » Il a beau avoir toute une parenté allemande, son père revendiquait avant tout son titre de grand seigneur français. Il a repris du service en 1871 et a été tué pendant la guerre de la plus belle façon. J'ai beau être très à cheval là-dessus, il ne faut pas faire d'exagération, ni dans un sens, ni dans un autre. In medio virtus. Ah, je ne peux pas me rappeler. C'est quelque chose que dit le docteur Cottard. « En voilà un qui a toujours le mot. Vous devriez avoir ici un petit Larousse. » Pour éviter de se prononcer sur la citation latine et abandonner le sujet de Saint-Loup, où son mari semblait trouver qu'elle manquait de tact, Madame de Cambremer se rabattit sur la patronne, dont la brouille avec eux était encore plus nécessaire à expliquer. « Nous avons loué volontiers la Raspelière à Madame Verdurin, » dit la marquise. « Seulement, elle a eu l'air de croire qu'avec la maison et tout ce qu'elle a trouvé le moyen de se faire attribuer, la jouissance du pré, les vieilles tentures, toutes choses qui n'étaient nullement dans le bail, elle aurait en plus le droit d'être liée avec nous. Ce sont des choses absolument distinctes. Notre tort est de n'avoir pas fait faire les choses simplement par un gérant ou par une agence. À fait terme, ça n'a pas d'importance. » Mais je vois d'ici la tête que ferait ma tante de Schnouville si elle voyait s'amener, à mon jour, la mère Verdurin avec ses cheveux en l'air. Pour Monsieur de Charlus, naturellement, il connaît des gens très bien, mais il en connaît aussi de très mal. Je demandai lesquels. Pressée de questions, Madame de Cambremer finit par dire « On prétend que c'est lui qui faisait vivre un monsieur Moreau, Maury, Moru, je ne sais plus. Aucun rapport, bien entendu, avec Morel, le violoniste, » ajouta-t-elle en rougissant. Quand j'ai senti que Madame Verdurin s'imaginait que parce qu'elle était notre locataire dans la Manche, elle aurait le droit de me faire des visites à Paris, j'ai compris qu'il fallait couper le câble. »